yet our best trained, best educated, best equipped, best prepared troops refuse to fight. Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch than fight.
Okay, talk to me about the future of Public Enemy.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertà 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. Et c'est Jeudi Noir qui commence pour cette deuxième émission mensuelle avec un morceau de Public Enemy que j'imagine beaucoup d'entre vous ont reconnu, Fight the Power. qui est un album Fear of the Black Planet en 1990. Voilà, et donc comme d'habitude, José a choisi les morceaux de musique avec un à-propos et une pertinence absolument formidable, puisque ce soir nous allons parler d'un ouvrage de C.L.R. James, que Jean-Michel va nous présenter. Un ouvrage donc qui s'intitule Histoire des révoltes panafricaines, qui a été édité aux éditions Amsterdam. C'est un ouvrage intéressant par sa méthode, parce que il prend d'un point de vue historiographique classique, aucun historien universitaire ferait ça tel quel. Parce qu'il va prendre, il va s'intéresser aux révoltes qui sont menées soit par des Africains dans les pays colonisés par l'Europe, soit par des Africains qui ont été déportés dans des pays comme les États-Unis ou dans des régions comme les Antilles. Donc c'est un objet qui est un peu transversal et qui n'est pas du tout évident à saisir parce qu'il n'a pas forcément une unité intrinsèque. C'est-à-dire que, en dépit de certains fantasmes de retour en Afrique du côté des Antillais ou des Afro-Américains, il n'empêche que la déportation des esclaves africains a eu un effet sur eux, des effets culturels, des effets économiques, des effets psychologiques qui font que le retour en Afrique signifie pas forcément grand-chose, un petit peu comme dans le cas des Young Lords, dont on avait parlé il y a quelques mois, qui rêvaient d'une autonomie de leur pays, du pays d'origine de leurs parents, alors que eux étaient nés aux États-Unis. Et donc c'est un petit bouquin qui fait environ 150 pages, un petit peu moins, qui a été écrit dans les années 30, qui a été révisé dans les années 60. Donc bon, il date un petit peu de ce point de vue-là, mais c'est quand même, ça reste, je pense, une source d'information assez solide, parce que qui a fait ça? Voilà, qui a écrit sur ces choses-là? Pas grand monde. Donc voilà, Histoire des révoltes panafricaines de C.L.R. James, et c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Jean-Mathias?
Ouais, alors peut-être que tu as donné un peu le contexte, hein, et puis l'intérêt du livre en général. Moi, je voudrais peut-être commencer par dire deux mots sur l'approche, la démarche, qui est celle de James, Cyril Lionel Robert James, pour avoir le prénom complet, et puis sur son profil à lui, peut-être. Alors d'abord sur l'auteur, c'est un militant qui est né en 1901 et il meurt en 89, je crois, un truc comme ça. Donc il est vraiment, 1901-1989. Il est originaire de Trinidad, donc des Antilles anglophones. Donc c'est vraiment, c'est un homme du 20e siècle, on peut dire. C'est un type qui a une trajectoire un peu particulière, parce que alors il commence comme commentateur sportif. En fait, il se fait connaître par ses textes sur l'histoire du hockey notamment. Je crois que c'est ça. Enfin, je ne sais plus quel sport, mais je crois que c'est ça. Et en fait, c'est surtout un militant politique. C'est un militant politique marxiste. Alors, qui d'abord milite dans les organisations trotskistes anglaises, à l'ILP notamment.
À l'ILP, oui. Ouais, le parti où était passé,
Parti Orwell,
notamment. Oui, passé Orwell, ouais. George Orwell.
Et bon, puis après, il suit un petit peu les péripéties du trotskisme et des différentes scissions qui marquent un peu l'histoire de ce courant révolutionnaire. Ensuite il va militer un peu aux États-Unis. En fait, bon, c'est quelqu'un qui, en fait, dont l'originalité, c'est qu'il a très tôt conscience que on peut pas, comment dire, plaquer en quelque sorte des analyses marxistes classiques quand on milite aux États-Unis ou en Grande-Bretagne.
Ça se voit souvent dans ces analyses.
C'est ça.
C'est-à-dire qu'en fait, un marxiste dogmatique.
Non, c'est pas du tout un marxiste ni dogmatique ni orthodoxe. C'est-à-dire qu'en fait, il pense que il y a notamment la question noire, la question de l'histoire de l'exploitation des noirs, qui est donc liée à l'histoire de l'esclavage, mais aussi à l'histoire des impérialismes européens et à leur héritage, hein, puisque c'est aussi le cas évidemment aux États-Unis que la question noire est centrale et que le marxisme doit en quelque sorte être adapté ou doit subir un travail d'interprétation pour effectivement intégrer cette question-là qui est spécifique et que Marx ne traite pas en tant que tel et qui est un facteur de mobilisation et de compréhension des luttes sociales et des et des perspectives aussi pour éventuellement tracer des perspectives militantes ou révolutionnaires qui est absolument incontournable. Alors bon, il va donc militer aux États-Unis, puis en fait il est viré des États-Unis, hein, il est viré des États-Unis pour raisons politiques. Donc il va vivre en partie à Londres, à Paris aussi. Après-guerre, c'est quelqu'un qui va se rapprocher du groupe Socialisme ou Barbarie. Il publie des choses avec Castoriadis, par exemple.
Ça, je savais pas, ça.
Ouais, donc il a une trajectoire assez étonnante. En fait, alors, ce qu'on se disait un peu avant l'émission, en fait, c'est la même génération et il a un parcours qui, je trouve, est relativement comparable à celui de Guérin. En fait, en termes de Daniel Guérin, le grand militant communiste libertaire hein, de français, qui voilà, ils ont quasiment le même âge. Hein, ils naissent et ils meurent en même temps. Et ils ont un positionnement qui est à peu près identique, quoi, de marxiste hétérodoxe, je dirais, de marxiste, alors plutôt clairement libertaire du côté de Guérin et sensible à la question, enfin pas sensible, voilà, faisant même de la question raciale une question centrale du côté de James. Alors du coup, il faut se représenter le type, donc comme voilà, donc c'est quelqu'un, il va rencontrer Trotsky avant la Seconde Guerre mondiale, il discute avec lui, donc après plutôt Socialisme ou Barbarie. Dans les années 70, en fait, il a une espèce de stature, en fait, et ça va être un des mentors du mouvement du Black Power. Donc il est comme ça, il est invité parce que faut voir que dans le monde anglophone, il est extrêmement extrêmement connu. Hein. C'est une des références maintenant de toutes les études postcoloniales ou des subaltern studies. Et donc c'est vraiment un auteur dont les textes sont très 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 discutés. Alors tu l'as dit, c'est l'auteur, notamment son texte le plus connu, c'est le Jacobin noir, et en fait qui est un livre d'histoire sur la révolution.
Il est long, vous le présentera peut-être.
A été traduit et édité aussi aux éditions Amsterdam, donc c'est un classique, hein. Ça c'est il montre en fait comment l'importance que la révolution de Saint-Domingue, donc d'Haïti si vous voulez, a dans l'histoire des révolutions en général et dans celle de la révolution française en particulier. Alors il en dit deux mots, donc autour notamment de la figure de Toussaint Louverture. Et il montre comment cet épisode-là de la révolution de Saint-Domingue, la révolution haïtienne, a une importance voilà, historique considérable qui est complètement occultée. Donc ça, si vous voulez, c'est un petit peu la trajectoire
La seule révolte d'esclaves réussie.
C'est la seule révolte d'esclaves réussie, d'esclaves noirs réussie, et elle a une importance, y compris d'après lui, qui est tactique, qui est énorme, y compris dans le succès de la Révolution française. Bon, donc ça, si vous voulez, c'est pour vous situer un petit peu la trajectoire de l'auteur. Alors après, sa position, je l'ai un petit peu dit. En fait, ce qui fait de ce livre c'est une brochure militante, en fait, on peut dire, c'est un livre militant. Il s'agit effectivement d'analyser ce qu'il appelle les révoltes panafricaines.
En fait, peut-être expliquer ce que c'est le panafricanisme.
Panafricanisme, bon, je vais en dire deux mots après. Mais d'abord, sur la démarche, il faut bien comprendre la chose. En fait, ce qui l'intéresse, lui, c'est d'essayer d'en finir une bonne fois pour toutes avec, en quelque sorte, la mythologie de l'esclave docile. De l'esclave docile ou du noir docile, c'est un truc. Alors je le dis parce que c'est un truc qui court encore.
On avait présenté le bouquin sur les quilombos.
Alors il y a quilombo qui tord un peu le cou de Smith là au Brésil. Mais je pense à quelqu'un. Alors je sais pas. Bon, pour on a commencé avec Public Enemy là, mais il y a une polémique récente là autour de ce rappeur américain Kanye West là qui est en train de virer Trumpiste.
Ah oui, qui a dit que si les esclaves étaient esclaves, c'est qu'ils le voulaient bien.
Et qu'il n'y a pas longtemps, hein, il y a quelques semaines, qu'a fait cette déclaration fracassante en expliquant que deux siècles d'esclavage et s'appliquant à des millions de personnes, ça commençait à ressembler à du consentement. Alors bon, évidemment, levé de bouclier énorme derrière. Bon, et puis Kanye West a plus toute sa tête. Ça, maintenant, je pense que la chose est claire. Mais il n'empêche que c'est une idée qui traîne un peu. Et alors, le panafricanisme, si vous voulez, c'est un courant qui est très compliqué, hein, très touffu, avec plein de figures différentes, qui est pas complètement homogène, avec différentes tendances aussi. Mais en gros, c'est un courant qui a précédé le mouvement anticolonial, je dirais, hein, notamment sur le continent africain. Donc c'est un mouvement qui naît en gros à la fin du 19e. Hein, et qui va être très actif surtout dans les années 20-30, avec plusieurs congrès, notamment dans l'entre-deux-guerres, un certain nombre de figures, dont Dubois notamment, puis Marcus Garvey. Les grandes heures du courant panafricaniste, c'est entre les deux guerres mondiales, hein. Et donc là se cristallise une réflexion qui affirme qu'en fait il y a une spécificité historique de l'histoire des Noirs en général, en Afrique et en aux Amériques. Et commence à émerger l'idée qu'en fait, il y a, y a une spoliation fondamentale et primitive, je dirais, des Noirs, qu'ils soient sur le continent africain ou aux Amériques, et que cette spoliation doit en quelque sorte être réduite, être soldée par une réappropriation des richesses du continent africain par les Noirs eux-mêmes, ce qui passe du coup du côté américain par un projet de retour à la terre, hein, de retour en Afrique, de réappropriation du continent. Alors après, c'est des projets qui sont pas toujours extrêmement clairs et extrêmement précis dans leur application. Mais une des applications, c'est par exemple la création du Liberia, notamment, hein, qui est une espèce de avec des ambiguïtés, parce que
sachant que James, il semble pas trop y croire.
Alors, pas du tout.
Quand il parle de James, Marcus Garvey,
James est pas là-dessus. Pas là-dedans. Hein. Mais Liberia, c'est même avant. Hein. Liberia, c'est même avant. Et en fait, il y a des ambiguïtés. Alors il y a des débats, hein, si vous voulez. Au départ, il s'agit en fait de la réaction panafricaniste, elle est en réaction par rapport à l'émergence du racisme scientifique en Europe après les travaux de Gobineau, qui va accompagner l'expansion coloniale française notamment, mais aussi allemande et belge. Donc vous avez ces écrits qui commencent à racialiser, à quelque sorte, et à justifier par des pseudo-théories scientifiques le projet impérialiste européen, notamment en Afrique. Et en réaction, vous avez ce courant panafricaniste qui va petit à petit s'affirmer et qui va au contraire mettre en avant l'égalité des races, l'aspect profondément injuste et injustifiable du colonialisme et de l'appropriation par les Européens du continent africain notamment, en héritage et en lien avec l'histoire de l'esclavage et des colonies aux Caraïbes et en Amérique. Et c'est ce courant-là qu'on appelle le panafricanisme en général. Alors, lorsque James utilise ce terme-là, il me semble que, en fait, lui, ce qu'il a en tête et ce qui fait l'originalité, je trouve, de cette approche, c'est qu'en fait, on est à cheval entre un courant qui est donc centré sur des luttes d'émancipation politique radicale menée par des Noirs, que ce soit aux États-Unis, dans les Caraïbes ou en Afrique. Ça, c'est là-dessus qu'ils travaillent. Et donc, il y a une spécificité de ces luttes-là. Et c'est ça qu'il veut essayer de restituer. Et en même temps, c'est quelqu'un qui n'est pas, comment dire, qui garde des outils, je dirais, de présentation historique et d'analyse historique, qui sont des outils relativement classiques, hein, qui sont liés donc à sa formation marxiste, avec l'idée que y a en fait un mouvement possible d'émancipation de ceux qui subissent, hein, en quelque sorte, l'exploitation, de ceux qui subissent la domination, et que c'est à partir de ces mécanismes d'émancipation qu'on peut comprendre, en quelque sorte, le sens de l'histoire. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein, simplement, ce sur quoi il travaille, lui, ce sont ces révoltes et ces mouvements d'émancipation spécifiquement noirs. Et il est à la croisée des deux. Ce qui en fait quelque chose
d'intéressant. Ce qui l'intéresse, c'est de montrer comment, justement, les esclaves noirs ont réussi, avec succès, dans plein de cas, à saisir des outils d'émancipation.
Exactement.
Qui étaient disponibles, idéologiquement, comment ils ont cherché à se les approprier.
Exactement.
Et comment ils se sont organisés. Ouais. C'est-à-dire qu'ils cherchent vraiment.
Comment, en fait, ils proposent des solutions d'émancipation qui sont qui peuvent être des leçons au-delà, évidemment,
oui, pour le monde entier,
des situations historiques et particulières dans lesquelles
c'est ça. Les trucs qui montrent un des trucs que son approche là où elle me semble intéressante, parce qu'on pourrait discuter sur le terme panafricain, mais ce qui montre d'une certaine manière, c'est que les habitants du continent africain, ça a été peut-être un des premiers peuples qui a été mondialisé de force,
exactement,
mais qui de ce fait peut aussi nous montrer plein de choses sur ce qu'on pourrait faire pour en sortir de cette merde dans laquelle on était, les leçons
révolutionnaires des mouvements d'émancipation noire.
Mais
hein, c'est ça qu'il essaie
sachant
qu'ils
sont dans une position historique particulière, mais qui peut avoir une valeur universelle,
voilà,
parce que déportation, expropriation, enfin c'est en termes d'injustice historique, ils sont en pointe, quoi.
Ils sont en pointe, tout à fait. Et alors concrètement, c'est quoi ? Le livre n'est pas très long, tu l'as dit, mais il parle de beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup d'informations là-dedans. Alors, il y a un chapitre qui est d'abord, le premier chapitre est consacré à Saint-Domingue, donc la République dominicaine et Haïti aujourd'hui. Et donc là, en fait, il fait une espèce de condensé, de résumé, mais je vais en dire deux mots parce que c'est un point fort du texte. Il fait un résumé de son analyse des Jacobins noirs, où effectivement là, il est beaucoup plus détaillé là-dessus. là-dessus. Le chapitre suivant, en fait, est consacré à la guerre de sécession, et en fait, qui est pour lui une occasion ratée, en fait, ratée par les Noirs américains, par les Afro-Américains du Sud, notamment, de s'inscrire réellement dans l'histoire des États-Unis. Ils montrent comment, en fait, ils sont utilisés et manipulés par la bourgeoisie du Nord, hein, des États-Unis, qui va faire en sorte
Il dit pas que c'est les Noirs américains qui ont raté le coche, il dit que c'est l'Amérique qui l'a raté.
L'Amérique a raté, il y a un peu les deux. C'est-à-dire que si tu veux, tu sens un regret, bon, c'est ce qu'il dit, là je vais passer vite, parce que t'as le regret qu'en fait, qu'il n'y ait pas eu au moment de la chute de la Confédération.
Ce qui s'est passé en 1789 en France.
Exactement, c'est-à-dire une appropriation des terres. Une réappropriation des terres par ceux qui les travaillent, c'est-à-dire une révolution agraire, pas simplement une loi agraire, mais que en fait, du coup, effectivement, une fois, donc il insiste là-dessus sur la participation politique, y compris hein, à des esclaves affranchis par la guerre de sécession pendant quelques années après, mais il montre en fait comment rapidement en fait les nordistes, si on dit ça comme ça, ont finalement laissé les noirs du sud des États-Unis dans une situation extrêmement défavorable du point de vue économique, social, et comment ils les ont livrés finalement à leurs anciens maîtres dans une situation où juridiquement ils n'étaient plus esclaves, mais où économiquement et socialement en fait ils se sont retrouvés exactement dans le même cas.
Oui, bah, il a une lecture à des niveaux de la guerre de sécession qui est très très marxiste, c'est-à-dire le Nord contre le Sud, le Nord qui est industrialisé, qui a besoin d'ouvriers, de consommateurs, et le Sud qui lui est sur un modèle de développement plus ou moins dépassé par rapport au capitalisme. Et donc, c'est pour ça qu'il cite Lincoln, qui dit « Ah, vous avez des abolitionnistes, nous aussi, on en a tué un la semaine dernière. » Au sens où il montre que du côté des nordistes, il y a une vue qui est très très cynique, finalement, et que c'est essentiellement des intérêts économiques qui sont en jeu.
Tout à fait. Alors, il y a un chapitre sur Saint-Domingue, les États-Unis, la guerre de sécession. Il y a tout un chapitre aussi sur l'Afrique du Sud, très intéressant, hein, sur l'histoire des mouvements d'émancipation noire en Afrique du Sud. Alors bon, on connaît avec la figure de Mandela et puis l'histoire de l'ANC, c'est relativement connu.
Relativement,
parce que ça commence à s'éloigner un peu, ce souvenir-là, moi je trouve, bizarrement.
Alors, et puis surtout, on a transformé Mandela en une espèce de d'apôtre du pacifisme.
C'est ça, un peu un Gandhi noir là, on oublie un peu les décennies d'emprisonnement et puis les luttes extrêmement violentes qu'il y a eu avant. Donc là, il remet ça en perspective. Le texte, tu l'as dit, tous ces textes-là datent de 39, donc ça date un peu, mais ça donne une espèce de vision longue, je dirais, hein, de ces luttes-là, là, sur le 20e, sur la fin du 19e et début du 20e siècle, en fait. C'est ça qui l'intéresse, lui. Après, il y a toute une présentation aussi de ce qui s'est passé au Sierra Leone, en Gambie aussi, au Congo. Il y a un chapitre, il faudrait qu'on en parle aussi, autour de la figure de Marcus Garvey, qui est un personnage assez haut en couleur, jamaïcain d'origine et militant à Harlem aux États-Unis, qui est un des apôtres du retour justement en Afrique, avec plein d'ambiguïté. Et donc ça c'est le texte de 39, hein, donc ce point-là. Et il y a Amsterdam, là on rajoutait là un épilogue, l'épilogue étant en fait un texte de 69 dans lequel il insiste sur deux expériences qu'il estime lui prometteuse à l'époque, à savoir l'expérience tanzanienne et celle du Zambie, autour de deux figures, là, le docteur Nyerere et le président Konda, qui sont d'après lui les figures les plus prometteuses d'un socialisme à l'africaine, en quelque sorte, même si il lui-même est très très prudent sur cette formule-là. Alors bon,
il pense que c'est un socialisme original,
voilà,
c'est-à-dire qui innove et qui n'est pas
dans le mimétisme des leçons de Marx ou de
qui est donc innovant et qui est adapté à la situation particulière de la Tanzanie et la Gambie.
Alors, tout ça, voilà, c'est pour vous donner un peu une idée de l'ampleur, hein, des sujets et des thèmes qui sont abordés dans le livre. Alors, il est... c'est un livre qui est assez agréable à lire, je trouve. Hein. Un peu dans une tradition d'historiographie un peu trotskiste. Alors, il insiste peut-être souvent sur on sent qu'il est sensible un peu aux grands hommes, quand même, et aux grands acteurs, aux grands leaders. Il a ce côté-là, ce travers un peu peut-être trotsko là-dessus. Voilà, il y a une espèce... On sent aussi qu'il a envie d'y croire. Il a envie de croire que ça avance dans le bon sens, ce qui est parfois un piège parce que parfois on manque un peu de lucidité. Mais moi, je trouve que c'est un texte qui est hyper riche du point de vue. C'est un texte assez précurseur en fait, hein, sur tous les débats aujourd'hui, ce qu'on appelle l'histoire postcoloniale, les subaltern studies, etc. Donc ça, c'est une présentation un peu. Je pense que c'est important qu'on situe ça parce que c'est un objet et puis une approche qui est relativement atypique, il me semble, hein, sur Et puis c'est voilà, des sujets sur lesquels finalement il se publie pas grand chose en fait.
À ma connaissance en tout cas.
Quand on regarde. On va peut-être faire une première pause musicale.
Voilà, avec un autre morceau choisi par José. Vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. Et c'est Jeudi Noir qui se poursuit après un petit morceau de Aracatula, Wake Up Africa. C'est un morceau du Nigeria, c'est la funk nigériane des années 70. Dixie José, hein, notre sélectionneur musical. Et d'ailleurs, vous pouvez trouver toutes nos émissions sur son site, hein, Gurdulu, Jeudi Noir, tout ça. Allez-y, il y a plein de choses à trouver, y compris de la musique gratos, vachement bien. Et donc ce soir, on vous présente avec Jean-Mathias un bouquin édité aux éditions Amsterdam, l'histoire des révoltes panafricaines, écrit par James, C.L.R. James, donc un militant historien originaire de Trinidad, c'est ça, la Trinidad. Donc voilà, on vous présentait la vision un petit peu, comment dire, panafricaine et son projet en général dans cette petite brochure assez militante, mais qui nous semblait intéressante parce qu'elle est rare en fait. C'est rare de lire l'histoire de ce point de vue-là.
Alors peut-être du coup, par rapport, pour illustrer un peu ça et puis rentrer dans le texte proprement dit, moi il y a trois points sur lesquels j'aimerais bien revenir un peu. C'est les trois chapitres, notamment alors celui sur Saint-Domingue d'abord.
Il est vachement bien celui-là.
Alors qui est très bien, bon, le livre commence là-dessus, hein, et présente effectivement Saint-Domingue, la révolution de Saint-Domingue en 1789. Comme une espèce de modèle presque historiquement pur, hein, de ce que c'est qu'une révolte et une révolution noire réussie. Et de fait, c'est la seule qui soit réellement victorieuse en définitive, mmh, et qui mène sur une indépendance politique et sur une souveraineté proprement.
Qu'Haïti payera
politique.
Horriblement cher, puisque
Haïti va payer horriblement cher à la France et qu'elle continue de payer.
Ça s'est arrêté en 46.
Ouais, les intérêts effectivement.
1946, hein. C'est-à-dire que le pays est indépendant, ouais, au début du 19e siècle, et la France lui impose une dette, ouais, qu'Haïti paiera jusqu'en 1946 ou 47. Alors, un truc hallucinant, en fait.
Il me semble que les deux points sur lesquels il insiste et qui sont d'importance, c'est qu'en fait, il rappelle, lui, d'abord l'ampleur de ce que représente Saint-Domingue, c'est-à-dire
économiquement
à l'époque, c'est-à-dire au moment de la Révolution française.
C'est le Qatar.
Alors, on va redonner les chiffres. Oui, c'est le Qatar ou les pays du Golfe tous réunis. C'est que c'est une fortune. Ça rapporte une fortune à la France, donc c'est un enjeu économique absolument majeur. Donc ça, il rappelle ces chiffres-là. Et le deuxième point, c'est il rappelle aussi l'importance tactique et stratégique que va avoir la révolte de Toussaint Louverture, donc le leader noir de Saint-Domingue, celui qui va accomplir la Révolution française en 89 sur l'île. L'importance que va avoir cette révolte-là d'un point de vue militaire, parce que les Anglais, les troupes anglaises mobilisées contre Toussaint Louverture vont être complètement décimés, découpés et dans la jungle et dans la forêt de Saint-Domingue, et
essentiellement par la maladie,
mais aussi par les combats, ce qui en fait explique au moins en partie le fait que les Anglais ne soient absents sur le continent au moment où la métropole mobilise ses troupes, la France mobilise ses troupes et assoit la révolution de 89. Donc en fait sa thèse, alors là pour le coup je trouve que c'est un très bon exemple de la manière dont cette question panafricaine ou cette lecture panafricaine de l'histoire décentre complètement la vision qu'on peut avoir d'un événement majeur comme celui de la Révolution française. C'est-à-dire qu'en fait, en prenant le point de vue de Saint-Domingue, enfin en prenant le point de vue de la révolte de Toussaint à Saint-Domingue, l'hypothèse que défend James, c'est qu'en fait, Saint-Domingue est probablement une des causes majeures de la réussite de la Révolution française. C'est parce qu'il y a eu la révolte de Saint-Domingue que, avec l'ampleur économique que ça représente et avec l'importance stratégique et tactique, militaire, que ça représentait en 89.
Et politique aussi.
Parce
que ni les Anglais ni les Espagnols ne voulaient permettre
l'émancipation des esclaves.
Parce qu'ils avaient des colonies dans tous les sens avec des tonnes d'esclaves, et en plus, ils se trompaient pas, parce que justement, James le signale ensuite, la révolution réussie à Saint-Domingue aura un impact politique sur les esclaves quasiment noir du monde entier.
Ouais. Et notamment dans les Caraïbes.
Et aux États-Unis.
Alors, peut-être rappeler un peu ces chiffres-là là, que je mentionnais à l'instant. Là. Donc, dès le départ, il raconte ça. Donc, il dit, au cours du 18e, et ça, c'est vrai qu'il faut quand même l'avoir en tête, Saint-Domingue, donc c'est Saint-Domingue, je rappelle, hein, c'est le nom qu'on donne à cette île qui regroupe aujourd'hui la République dominicaine et Haïti. Hein. À l'époque, c'est Saint-Domingue, c'est la même. Alors, donc, au cours du 18e, Saint-Domingue devient fabuleusement prospère. C'est l'exploitation de la canne, hein, la fabrication du sucre, qui est le pétrole de l'époque, en fait, hein, on peut dire. Saint-Domingue devient fabuleusement prospère et en 1789, l'île reçoit 40 000 esclaves par an. En 1789, le commerce extérieur de la Grande-Bretagne s'élève à 27 millions de livres, dont 5 millions seulement proviennent du commerce colonial. Par contre, le commerce extérieur de la France totalise 17 millions de livres, dont 11 millions sont dus uniquement à Saint-Domingue. C'est-à-dire que les trois quarts du commerce extérieur de la France, c'est le sucre fabriqué à Saint-Domingue et revendu en France. Alors, évidemment, les villes qui sont enrichies au premier chef, c'est des villes du commerce anglais, Bordeaux, Nantes, voilà. Et tout l'arrière-pays, hein, toutes les régions, évidemment. Il y a des reconstitutions qui ont été faites, des flux financiers que ça représente par l'arrivée dans les ports, la vente, effectivement, des marchandises qui viennent des colonies. Et donc, ça remonte, ça suit les fleuves, quoi. Hein, donc, ça suit la Loire, effectivement, pratiquement jusqu'à Orléans. Et donc, bah, c'est, voilà, une source de richesse absolument fabuleuse. Donc, c'est absolument crucial du point de vue économique. Alors, il rappelle un petit
c'est
peu...
C'est quoi, c'est 500 000 esclaves? Parce que je crois qu'il y a une faute de frappe. Il dit 50 000.
40 000 par an.
Non, parce qu'un peu plus tard dans le bouquin, il parle de 50 000 esclaves. Mais bon, je pense qu'il y a une faute de frappe. Parce qu'à mon avis, sur le nombre total d'esclaves qu'il pouvait y avoir à Saint-Domingue à l'époque, à tous les coups, si c'est 40 000 par an...
Oui, Saint-Domingue compte à cette époque 50 000 esclaves, t'as raison, la page suivante, oui, donc non, c'est pas...
Tu vois, je pense qu'ils sont plantés, ouais, on est, ouais, enfin, ils s'est planté, à mon avis, c'est plutôt 500 000, ouais, à tous les coups.
Il faut voir ça, j'ai pas le point. Alors après, il raconte un petit peu quel est l'échiquier politique à l'époque sur la question de l'abolition, hein, et il montre en fait que bah, il y a une espèce un peu de jeu de dupe derrière ça, parce qu'il y a des abolitionnistes en Angleterre, il y a des abolitionnistes en France, et les uns comme les autres, en fait, partent de principes, voilà, de droits, d'égalité, etc., qui sont tout à fait respectables, mais qui laissent un peu dans l'ombre l'importance économique que représente en fait, hein, cette exploitation de
En même temps, là où il est intéressant, c'est que je trouve qu'il est pas vraiment, là ça fait partie des trucs où il manifeste.
Il n'est pas cynique.
Il n'est pas cynique, c'est pas un marxiste orthodoxe.
Non. Il n'est pas en train de se dire les belles âmes en métropole qui machin. Mais simplement, il mentionne que ce facteur-là est systématiquement sous-évalué par les abolitionnistes. Oui. Parce que, sauf quand effectivement les choses deviennent sérieuses, c'est-à-dire quand effectivement la révolution se déclenche donc en 89, l'écho à Saint-Domingue immédiat, c'est que du coup, si tous les hommes naissent libres et égaux en droit, allons-y. Donc on va virer effectivement les propriétaires et on se révolte contre ça, on fait la révolution. Alors il raconte ça, bon, c'est de manière page 25, donc là c'est un petit peu, il se fait un peu plaisir, mais il y a cette idée là, donc on n'est pas une nuit d'août, hein, donc il y a un petit délai, hein, le temps qu'effectivement que les nouvelles arrivent, donc après le 14 juillet, donc par une nuit d'août, une tempête tropicale fait rage avec des éclairs, des bourrasques de vent et de lourdes averses de pluie. Les chefs de la révolte, il faut quand même des chefs, hein, dans le texte souvent...
Il aime bien les chefs.
Les chefs de la révolte, portant des flambeaux pour éclairer leur chemin, se rencontrent dans une clairière, des forêts épaisses de Morne Rouge, une montagne qui domine Cap François, la plus grande ville de la colonie. C'est là que Boukman, le chef, ayant proféré des incantations vaudou et sucé le sang d'un porc égorgé, donne ses dernières instructions. Ils commencèrent dès cette nuit-là. Chaque bande d'esclaves assassine son maître et réduit en cendres sa plantation. Les esclaves détruisent tout infatigablement. Ils savent qu'aussi longtemps que tiendront ces plantations, leur lot sera d'y travailler jusqu'à la mort. Ils violent toutes les femmes qui leur tombent entre les mains, souvent sur le corps de leur époux, de leur père ou de leur frère, encore en train de se vider de son sang. Mais ils ne conservent pas longtemps leur esprit vengeur. Au fur et à mesure que la révolution s'étend sur le territoire, ils épargnent plusieurs hommes, femmes et enfants surpris dans les plantations. Ils se montrent impitoyables qu'envers les prisonniers de guerre. Ils leur arrachent la chair avec des pains chauffés à blanc. Ils les font lentement rôtir sur des feux. Ils scient un menuisier entre ses planches. Cependant, dans l'ensemble, ces supplices restent bien en deçà du traitement barbare qu'ils ont eux-mêmes subi. Ce qui est vrai, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, bon, alors,
il décrit les supplices d'un esclave et la loi aussi qui réglemente ça, et en fait la torture des esclaves noirs dans ce genre
absolument
de
temps, vraisemblable.
Absolument invraisemblable.
Les plantations en Caraïbes, c'est un truc
en fait, on n'imagine même pas la violence que ça implique et que ça suppose. Enfin, c'est bon. Il y a une description, mais il donne pas tellement dans le sensationnalisme comme ça.
Là il situe un peu, il y a un peu ce côté un peu l'origine de l'émancipation, là on est un peu sur le mais qui montre, c'est le côté un peu c'est la liberté ou la mort, quoi. Et donc on y va, il y a effectivement ce côté radical de la révolte, il faut aller au bout, il faut détruire le système effectivement des plantations, parce que pour lui
ils iront jusqu'au bout, dire que Toussaint Louverture jusqu'au bout dira en gros, si vous voulez nous envahir, nous on détruit tout. Si peut-être que vous gagnerez, mais vous en gros vous ferez la conquête d'un désert. Or, ce qui vous intéresse, c'est de récupérer les plantations. Mais nous, on a le pouvoir de tout détruire. Donc, c'est peut-être le pouvoir de nous détruire, nous, mais nous, on a le pouvoir de détruire ce qui vous intéresse. Et ça, c'est. Effectivement, il montre le radicalisme, mais intelligent d'une certaine manière. C'est une compréhension réelle des enjeux politiques et économiques à l'œuvre.
Alors ensuite, il passe vite là-dessus, mais en fait, il montre comment en fait la réaction en métropole est un peu mitigée. C'est que pendant 2-3 ans, en fait, c'est assez flou, hein, le positionnement en fait de la métropole à l'égard de cette révolte-là. Et en fait, le point de bascule, c'est 93, effectivement, quand la France déclare la guerre.
94, l'abolition de l'esclavage.
Oui, mais 93, t'as la situation militaire en fait qui change complètement. C'est-à-dire qu'effectivement, la France se retrouve en guerre contre l'Espagne, contre l'Angleterre. Et là, pour le coup, c'est Danton qui va pousser la roue pour que le 4 février 94, on abolisse purement et simplement l'esclavage. Alors derrière, il y a effectivement des convictions abolitionnistes, mais son idée, c'est de foutre le maximum de souk, évidemment, dans les colonies britanniques. et espagnol pour le, voilà.
Ah, Danton, en, Danton c'est un cynique.
C'est un tacticien. Un tacticien. Voilà, oui. Donc c'est d'ailleurs c'est ce qu'il dit. Hein, il en parle le grand tacticien de la Révolution. Il le présente comme ça. Et donc en fait ça c'est en fait l'idée c'est d'allumer la mèche et de foutre le feu partout où il peut, c'est-à-dire de rallier les esclaves qui soutiennent effectivement toute l'économie coloniale dans les Caraïbes et au-delà hein, effectivement dans les colonies espagnoles de d'ouvrir un front en quelque sorte derrière les et ça va marcher.
Mais il montre bien aussi comment Toussaint Louverture c'est un acteur historique indépendant.
Et indépendant qui suit sa ligne et qui cherche des alliances en fonction de son intérêt.
Exactement.
C'est-à-dire qu'il est pas dupe hein, des beaux discours de la Révolution. Alors bon, il les suit effectivement et il s'appuie dessus pour
adhère aux idéaux de la Révolution.
Il adhère aux idéaux,
mais il adhère pas forcément à la France révolutionnaire.
Au gouvernement pluriel de la France révolutionnaire. Alors là, pour le coup, il va suivre, hein, il le dit. Donc voilà, à partir de ce moment-là, Toussaint se rallie immédiatement aux Français hein, et il va massacrer ses alliés espagnols de la veille parce qu'effectivement il s'agissait avant de s'appuyer avec les Espagnols contre les propriétaires français parce que ça faisait avancer la cause. Donc là, ben là, terminé. Effectivement, les alliés espagnols dégagés, les blancs comme les noirs. Tandis qu'en Martinique et en Guadeloupe et dans les autres colonies françaises, les esclaves noirs chantent le Ça ira et la Marseillaise, arborant les couleurs de la République et qui commencent à chasser les Britanniques avant de mener la guerre sur le territoire britannique lui-même. Alors ça, c'est un tournant qui est absolument... que je trouve effectivement très intéressant parce que ça on entend très peu parler dans l'historiographie de la Révolution française classique, je dirais. Ils expliquent alors voilà, donc l'Espagne signe la paix en 95 et en 99 les Britanniques sont chassés de Saint-Domingue et la plus grande partie des colonies françaises par les esclaves noirs et les mulâtres. Et alors il explique que ça, Fortescue, l'historien Tory de l'armée britannique, fait un récit vivant de ce désastre colossal. La Grande-Bretagne a perdu 100 000 hommes dans les Antilles au cours de ces 4 années, 2,5 fois le nombre d'hommes perdus par Wellington durant toute la guerre d'indépendance espagnole. La fièvre a décimé les rangs des Anglais, mais Toussaint Louverture et Rigaud, un mulâtre, son second, remportent à Saint-Domingue l'une des plus importantes victoires des guerres révolutionnaires françaises, comme Victor Hughes, un autre mulâtre en Martinique et dans les petites îles. Secondés par la fièvre, ils ont, selon la formule de Fortescue, pratiquement détruit l'armée britannique. Pendant 6 ans, la Grande-Bretagne est empêtrée dans les Antilles. Et pour citer Fortescue encore une fois, si elle a joué un rôle aussi insignifiant dans la charge contre la France révolutionnaire en Europe pendant les 6 premières années de la guerre, l'explication se trouve dans ces deux mots fatals, Saint-Domingue. Alors ça, c'est quand même effectivement un des acquis, je trouve, de cette manière de décentrer hein, l'analyse d'un phénomène historique. Et voilà. Alors, le rôle des Noirs dans le succès de la Grande Révolution, nous dit James, n'a jamais reçu la reconnaissance qu'il mérite. Et la Révolution en Europe négligera les travailleurs de couleur à ses risques et périls. Et c'est pas peu dire, parce qu'alors il rappelle évidemment après le moment peu glorieux bonapartiste, hein, lorsque Napoléon arrive au pouvoir et que lui établit évidemment l'esclavage, et qu'il envoie ses troupes, là pour le coup, Leclerc, contre Toussaint Louverture, qui va mener la guerre. Alors apparemment, une guerre qui alors bon, Toussaint, on le sait, hein, est fait prisonnier, il est déporté en France, il va mourir dans une prison dans le Jura, hein, et c'est son second, là, Dessalines, qui est un de ses lieutenants, qui va là du coup va mener une guerre. Mais alors bon,
à outrance.
D'une cruauté sans pitié, pas de quartier de part et d'autre. Et bon, alors ça va durer. Hein, mais et puis finalement, c'est une victoire des indépendantistes hein, qui va solder tout ça. Mais
oui, parce que Dessalines, contrairement à Toussaint Louverture, a vraiment l'idée d'indépendance en tête.
Ah oui, c'est-à-dire qu'il est pas Toussaint est un opportuniste et il a un grand sens politique. Après, il est dans la roue, il est dans le souffle en quelque sorte de la Révolution française. Dessalines, c'est bon, il a plus d'illusion là sur l'affaire, là quand il voit redébarquer les Français là, en 1804 pour rétablir le monde d'avant, il a plus d'illusion là-dessus. Donc c'est ça effectivement, c'est cette guerre à outrance et ce souffle-là révolutionnaire qui va mener à l'indépendance d'Haïti. Alors effectivement, une indépendance qui a un coût assez exorbitant, mais qui est un événement historique considérable. Alors pour l'histoire effectivement de ce qu'on peut déjà appeler d'une certaine manière la décolonisation, hein, puisque c'est la première lutte décoloniale, le premier mécanisme de décolonisation. Effectivement, c'est un coup qui est aussi crucial sur l'abolition, sur la route de l'abolition de l'esclavage, quand même. Et du point de vue de la Révolution française et de ce que ça représente, et ben c'est aussi effectivement un événement tout à fait majeur. Et ça, c'est le zoom que permet une approche panafricaine ou de mettre en avant la spécificité de la question noire. Effectivement, permet de faire apparaître ça. Donc c'est un acquis historique qui me semble pas pas négligeable, c'est moins qu'on puisse dire. Alors, peut-être un peu plus rapidement, dire aussi deux mots sur la... C'est un peu plus loin dans le texte, avant qu'on fait une pause d'abord.
On va faire
une petite pause, puis on parlera
puis,
de Marcus Garvey.
Ouais, c'est ça, vachement bien, Marcus Garvey. Ouais.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. C'est Jeudi Noir qui se poursuit. Vous venez d'entendre un morceau que Jean-Mathias a adoré de Sori Kandia Kouyaté, qui s'intitule Sakodougou. C'est un morceau de guinéen dédié à Sékou Touré. Voilà, donc on vous parlait avant.
La bande-son du panafricanisme des années 70. Et... 60 et 70 même.
Voilà, donc on vous parlait d'un bouquin de C.L.R. James. Un historien militant politique originaire de la Trinidad, et donc son livre s'intitule Histoire des révoltes panafricaines, c'est aux éditions Amsterdam. Et donc on venait de vous présenter un petit peu en guise de comment dire de d'exemple typique la présentation qu'il fait de la révolution d'indépendance de Saint-Domingue appelée aujourd'hui Haïti. Et puis ben là on voulait vous parler de deux autres passages dans le bouquin qui nous ont bien plu, un passage sur Marcus Garvey,
voilà, pour bien prendre la mesure en fait de l'originalité de l'ampleur en fait des sujets et des périodes historiques qui sont traitées, parce que comme
traite aussi
début,
de la guerre civile aux États-Unis, la guerre de sécession comme on l'appelle, il parle des révoltes qui précèdent la guerre de sécession. Il parle aussi des révoltes qui ont lieu en Afrique dans dans l'Afrique colonisée.
Et donc il passe son temps à faire comme ça des analyses qui portent aussi bien sur les Caraïbes que sur l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Sud et les États-Unis. Et
qui se révolte, pourquoi ils se révoltent, comment ils se révoltent et comment est-ce que la révolte échoue plus souvent ou réussit.
Avec donc ce moment inaugural à Saint-Domingue là, qui est vraiment le lancement en quelque sorte de ce mouvement d'émancipation l'occupation noire. Et alors, il y a ce passage aussi du livre là, qui est assez, assez intéressant, qui est consacré à Marcus Garvey. Alors, Marcus Garvey est une figure du panafricanisme, pour le coup, une figure centrale du panafricanisme. C'est un personnage assez, assez étonnant. Parce que.
Un peu sulfureux.
Sulfureux, ambigu, tout ça. Bon, il est originaire de la Jamaïque et il vit aux États-Unis, il vit dans le quartier d'Harlem, à New York. Et en fait, c'est une espèce de tribun, d'homme d'affaires également, et alors, de penseur politique avec une pensée un peu rapide, on va dire. Mais en fait, c'est quelqu'un qui a joué un rôle très très important et qui a une audience très importante aux États-Unis, dans la communauté afro-américaine, et qui marque vraiment un moment de peut-être le moment où les organisations communautaires afro-américaines, on va dire, ont été les plus importantes en numériquement, en tout cas, hein, parce que alors on est dans les années 20 là, donc c'est l'entre-deux-guerres. Et en fait, c'est un gros morceau pour James, cet épisode-là, parce qu'en fait, je l'ai dit au début, hein, lui, son terrain, le terrain sur lequel il va militer le plus en réalité, en tant que militant révolutionnaire, plutôt trotskiste, c'est les États-Unis. Et donc, en fait, le phénomène Garvey, Marcus Garvey, qui est un peu plus âgé que lui, mais c'est quelque chose qui peut pas contourner, en fait. Hein, alors, qui est Garvey? Donc, c'est une espèce de tribun qui en fait va thématiser le retour en Afrique, c'est-à-dire que il part sur des thèmes extrêmement à la fois simples et en même temps martelés très fort symboliquement, l'idée que les Afro-Américains ont été déportés de leur continent d'origine, lequel a ensuite été pillé par les Blancs. Il faut dire par les Blancs, par les Européens. Ils ont été réduits en esclavage dans les Caraïbes, au sud des États-Unis. Et en fait, la justice voudrait que les Noirs, Afro-Américains et Africains, se réapproprient leurs terres, en dégagent les Blancs et établissent en fait une souveraineté continentale, panafricaine pour le coup, qui leur permette d'exploiter les richesses de leur continent et d'être maîtres de leur destin. C'est une espèce de nationalisme black à l'échelle du continent africain et de sa diaspora. Donc je ne sais pas si vous voyez un peu l'ampleur du projet, on va dire. Et ça fait un carton. Ça fait un carton, ce discours-là. C'est-à-dire que, d'après James, en fait, ça fait un carton parce qu'en fait, le racisme, la question raciale aux États-Unis est une question qui est très spécifique, qui, en fait, est intrinsèquement lié à la question sociale. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un racisme qui a une fonction sociale. Il s'agit de maintenir les Noirs au bas de l'échelle sociale pour avoir une masse de manœuvres à exploiter.
Et il a un très beau paragraphe, je trouve, sur cette propriétaire sudiste imaginaire qui, en fait, vit continuellement avec des Noirs dans lesquels elle a plus confiance.
On peut lire le passage.
Tu peux le lire, tu l'as sous la main.
Parce qu'effectivement, alors, on va dire ça comme ça et dire... Le noir américain, par son langage, alors c'est ce qu'il dit en fait, hein, c'est qu'il y a en fait le tout est. C'est un racisme qui est à la fois extrêmement structurant aux États-Unis et qui en même temps est essentiellement social, quoi. On n'est pas sur du physique, on n'a pas besoin de grands discours, c'est un rapport social fondamentalement. Il nous dit, le noir américain, par son langage, ses traditions et sa culture, est un américain. Il est présent en Amérique pratiquement depuis le début. Il a contribué à faire du pays ce qu'il est. L'hostilité que lui manifestent les blancs n'a rien à voir avec une répugnance physique. Les nombreux métis, il s'amuse, hein, les nombreux métis, les croisements incessants des races en Amérique, comme dans cette forteresse d'ailleurs du préjugé racial qu'est l'Afrique du Sud, en fournissent la preuve. J'aime beaucoup la phrase suivante, la ségrégation de couleurs n'existe qu'à la lumière du jour. Sous-entendu, dès qu'on éteint la lumière, là, il n'y a plus de problème de race et ce qui se passe dans le noir est complètement différent. Le proverbe est courant en Afrique ainsi qu'en Amérique. Une femme blanche du Sud peut se faire allaiter par une nourrice noire et passer son enfance en compagnie de serviteurs noirs. Plus vieille, elle peut apprendre à monter à cheval avec l'aide d'un palefrenier noir. Des domestiques noirs peuvent préparer ses repas, la servir à table. Il est bien connu qu'une jeune femme du Sud a souvent plus confiance en sa vieille nourrice noire qu'en ses propres parents. Un chauffeur noir peut la conduire en ville. Elle entre dans un restaurant, voit un noir assis à plus de 10 mètres d'elle en train de prendre un repas et elle hurle qu'il doit être mis à la porte. Il est évident qu'elle ne ressent aucune répugnance physique. La question est sociale et politique. On doit maintenir le noir à sa place. C'est la principale raison de la persécution des Noirs dans le Sud. En tant que travailleurs, en tant que fermiers locataires, en tant que métayers, ils sont à la merci de leur employeur et doivent être contraints par la terreur d'accepter les conditions de vie qui leur sont imposées. Donc il y a une fonction sociale, politique très claire du racisme aux États-Unis, et ce qui veut dire que, d'une certaine manière, l'envers de ça, la manière dont ce racisme-là est perçu par ceux qui en sont les victimes, c'est qu'au fond, mais jamais il n'y aura de place, d'une certaine manière, pour eux. Et c'est sans doute, alors en tout cas d'après James, c'est un des mécanismes qui explique le succès du discours panafricaniste un peu rudimentaire, hein, que développe Garvey, alors avec brio visiblement, parce que lui, et alors là encore, c'est un peu ça.
Je crois que ça fait penser à des romans américains consacrés justement au début du siècle, où tu as des flics irlandais qui sont arrivés aux États-Unis genre 20 ans plus tôt, qui tabassent des afro-américains parce que les afro-américains osent dire qu'ils sont américains. Ouais. Sachant que ces afro-américains-là ont des ancêtres qui ont été déportés aux États-Unis sans doute 150 ans avant les Irlandais en question. Ouais. Et donc ici, le côté, en fait, je suis né aux États-Unis, mon père est né aux États-Unis, ma mère est née aux États-Unis, mes grands-parents aussi, et c'est peut-être mes arrière-arrière-grands-parents qui sont en Afrique.
Justifié auprès des Irlandais qui sont arrivés bien après.
C'est ça, et ça pourrait expliquer aussi, tu vois, du type, c'est bon quoi, jamais ici ils nous laisseront être chez nous, alors qu'on est chez nous, donc autant se barrer.
Donc il y a ce côté-là, c'est d'après ce que je comprends de James, au fond c'est un discours et c'est un succès qui tient au public de diaspora, au fond, qui fait comme c'est la conscience chez les Afro-Américains de se vivre comme une diaspora. Alors qu'en fait, ils sont américains, ils sont aussi autochtones que les blancs, ils sont arrivés en même temps, en fait, hein, voilà, quasiment en même temps. Donc il y a ce côté-là.
Ou avant pas mal de blancs, d'ailleurs.
Et alors, ce qui rappelle, du coup, en même temps, c'est du coup l'ampleur du succès que ça représente. Alors, il faut bien représenter, Garvey, c'est quelqu'un qui a monté notamment toute des compagnies maritimes qui étaient censées permettre le retour par bateau massivement des populations, etc. Il a d'ailleurs arnaqué.
C'est aussi un escroc, quoi.
C'est un escroc qui a passé quelques années en tôle, parce qu'en fait, il a roulé ses associés, etc. Mais c'est la Black Star Line, donc, hein, qui était censée effectivement.
Mais les années qu'il a passé en tôle, c'était pour une
escroquerie.
Oui, mais escroquerie postale.
Postale, oui. Il y a des détournements de fonds à tour de bras autour de ça. Mais James lui reconnaît quand même une espèce de brio, et en tout cas d'avoir senti quelque chose. Et de fait, il fait un carton en termes de mobilisation. Il rappelle en termes de chiffres, là, c'est assez impressionnant. Il explique qu'il n'y a jamais eu de mouvement noir, page 86 là, il n'y a jamais eu de mouvement noir comme celui de Garvey, et très peu de mouvements au monde ont égalé sa croissance et son intensité. En 1920, il devient le mouvement de masse le plus puissant proportionnellement en Amérique. Les partisans de Garvey ont prétendu que le nombre d'adhérents de la UNIA, ce qui est le nom de l'organisation, atteint alors 3 millions de membres, et Garvey lui-même en revendique 6 en 1924. Ce dernier chiffre est sans doute exagéré, il correspond à plus de la moitié de la population noire en Amérique à l'époque. Il est cependant probable que les 9 dixièmes des noirs américains étaient à l'écoute de Garvey. Et il peut sans doute avoir atteint 2 millions de membres dès 1920. L'argent et les membres affluent de tous les États d'Amérique, de toutes les îles des Antilles, du Panama. Les Noirs vendent leurs possessions les plus chères pour envoyer de l'argent à Garvey. Son nom fait le tour de l'Afrique. Le roi du Swaziland, des années plus tard, dit à un ami qu'il connaît le nom de deux hommes noirs seulement dans le monde occidental, Jack Johnson et Marcus Garvey. Et alors, le programme de Garvey, alors James n'est pas dupe du programme, hein, il lui dit en quoi consiste le programme de Garvey. Le retour en Afrique, Back to Africa. Les Noirs doivent reprendre l'Afrique, ils iront s'y installer pour vivre dans la liberté et le bonheur comme les Européens en Europe et les Américains blancs en Amérique, chacun chez soi. Comment reprendront-ils l'Afrique ? Ils vont la demander aux impérialistes, et si les impérialistes refusent de la leur donner, ils vont la prendre de force. C'est essentiellement tout ce que Garvey a à dire, dit James. Et il est vrai qu'il attaque aussi la pratique du lynchage, qui formule des revendications militantes comme l'égalité des droits pour les Noirs, la liberté démocratique, etc. Mais fondamentalement, son programme se résume à cela, retour en Afrique. Commentaire de James, ce ne sont là que de pitoyables âneries, mais les Noirs veulent un chef et ils prennent le premier qui leur tombe sous la main. En outre, il arrive souvent que les hommes désespérés entendent non pas les paroles réelles d'un orateur, mais leurs propres pensées. Alors après, il déduit, il est très méchant, hein. C'est-à-dire qu'en fait, il explique que Garvey a été un des premiers à rôder, en fait, le slogan matraqué, à faire défiler des sections en uniforme, et en fait, il le compare ouvertement à Hitler. Hein, et il montre qu'en fait, tous les baratins, oui, c'est les sections avec l'équivalent des SA, etc. Et en fait, il dit, c'est bien gentil les discours sur les Noirs, les discours enfantins, les Noirs qui seraient immatures politiquement.
Qui seraient fascinés par la musique,
voilà,
etc.
Il dit, regardez ce qui s'est passé en Europe un petit peu après, on a exactement une espèce de copie conforme là-dessus. Donc il est très dur avec l'aspect, le courant.
L'organisation politique elle-même. Ensuite, dans l'espoir que Garvey a suscité chez les Afro-Américains et chez les Noirs dans le monde, il dit que c'est super important.
C'est c'est super important.
Parce que pour le coup, il a fait prendre conscience. Ouais. Il a donné une espèce d'impulsion très très forte. Quoi,
très forte. Ce moment-là. Alors bon,
il nous reste deux minutes.
On peut malheureusement pas détailler trop sur la suite. Alors deux mots peut-être quand même sur l'épilogue où là, alors c'est à la fois intéressant et en même temps un peu comment dire. Peut-être un peu attristant aussi, c'est-à-dire qu'en fait, il fait l'épilogue est de 69, donc il est rédigé 30 ans après les premiers textes.
Ah, il est aussi attristant, c'est pas seulement le texte, c'est la situation du monde qui est attristante. Voilà. C'est-à-dire qu'en 69, ils avaient de l'espoir, il se passait des choses intéressantes.
Ça. Alors, où il présente effectivement de manière très élogieuse les expériences en Tanzanie et en Zambie, qui cherchent à développer justement des formes de socialisme originales, créatives, adaptées à la sociologie, à l'histoire ou à la culture. De ces territoires-là. Bon, alors le problème, c'est qu'après, nous, on connaît un peu la fin de l'histoire qui n'est pas forcément radieuse. Et c'est un peu les limites de l'exercice. C'est qu'effectivement, dès qu'il est sur du pronostic, comme tous les marxistes, il y a une prise de risque qui est importante et puis de la déception qui pointe assez vite.
Puis c'est un écrit militant.
Et bon, évidemment, il a
quand il écrit, il est là pour mobiliser.
Il faut qu'il ait l'air d'y croire, il faut qu'il ait l'air de voir que ça marche. Mais c'est un petit bouquin que je trouve qui est très très riche, qui pose plein de questions, qui vraiment est stimulant parce que je trouve que ça ouvre une espèce d'historiographie qui est pas celle qu'on a l'habitude de voir, c'est le moins qu'on puisse dire. Même si de plus en plus c'est des approches qui prennent leur importance. Mais on recommande quand même.
Donc l'histoire des révoltes panafricaines de C.L.R. James aux éditions Amsterdam. Donc James, et vous pourrez trouver réécouter l'émission sur Gurdulu en tapant Jeudi Noir, Archive, tout ça. Et on va laisser l'antenne à Entre Chien et Loup, et on se retrouve donc dans le deuxième jeudi du mois prochain.
Est-ce que vous imaginez que l'euro soit animé au CFA, que la politique monétaire soit décidée chez nous, que le compte d'opération soit logé à Dakar? Est-ce que vous imaginez cela? Mais pourtant, vous imaginez l'inverse, normalement, naturellement, et quand on vous parle, vous nous sortez des arguments de sagesse, de stabilité, les arguments de l'inaction, en fait. Sur la piste de danse, sans scrupule, elle pollue l'ambiance, pourtant elle stipule.